Bonjour Thomas, je ne sais pas
bonjour,
ce que
Guillaume.
Vos parents, mais vous aujourd'hui, vous faites la revue de presse internationale. Et ce matin, eh bien, il y a comme autant de scénarios de films.
Oui, en Afrique du Sud, tout d'abord, Day Zero, le jour zéro, comme on l'appelle là-bas, aurait pu tout aussi bien être rebaptisé The Last Day, tant ce qu'il désigne s'apparente au scénario éculé de ces films catastrophes, mêlant tout à la fois futur post-apocalyptique et lutte de chacun pour sa propre survie. Dans la ville côtière du Cap, le jour zéro est fixé au 16 avril prochain. Ce jour-là, les 4 millions de cette mégapole tentaculaire, la deuxième ville la plus peuplée du pays, n'auront plus d'eau courante. Et dans l'état actuel des choses, écrit The Daily Maverick, le défi dépasse tout ce qu'une grande ville a eu à affronter dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale ou le 11 septembre. Nous sommes au-delà du point de non-retour, a d'ores et déjà prévenu le maire, de sorte que le compte à rebours a commencé. À court terme, insiste toujours le journal, il n'y a plus qu'une seule solution, nous devons économiser l'eau comme si nos vies en dépendaient, parce que c'est effectivement le cas. Et c'est ainsi que depuis hier, les habitants sont donc appelés à ne plus consommer que 50 litres par jour et par personne, soit l'équivalent d'une douche quotidienne de 3 minutes. Dans les colonnes du New York Times, un habitant raconte « Nous avons déjà des seaux sous chaque robinet pour recueillir l'eau du lavage des mains ou du brossage des dents et que nous utilisons ensuite pour les toilettes. Dans les cafés et les restaurants, des pancartes indiquent aux clients de ne tirer la chasse d'eau que lorsque c'est nécessaire. Les vêtements sont portés plusieurs fois avant d'être lavés. Enfin, la douche est devenue un rituel rare. Les stations de radio ont même mis en place des playlists de chansons d'une durée de 2 minutes maximum pour encourager les gens à se laver rapidement. Et c'est ainsi, crée toujours le quotidien américain, que le Cap apparaît désormais à l'avant-garde de ce qui est susceptible de devenir notre nouveau mode de vie. Des expériences comme celle-ci qui remettent en question notre perception de ce dont nous avons besoin et de ce qui est plus précieux, dit-il, sont comme un entraînement pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, à présent, pour rétablir la situation, précise une chercheuse interrogée dans les colonnes du Temps, il faudrait des mesures sur 5 ou 10 ans, alors que les autorités ont moins de 3 mois devant elles. En clair, les autorités sont aujourd'hui engagées dans une course contre la montre qu'elles ne peuvent pas gagner.
Et direction les États-Unis, cette fois-ci Thomas, avec un scénario digne là des meilleurs thrillers politiques.
Oui, le président américain devrait a priori autoriser aujourd'hui la publication d'un mémo confidentiel selon lequel le FBI, et donc le ministère de la Justice dont il dépend, se serait appuyé sur des informations controversées rassemblées par un ancien espion britannique pour obtenir l'autorisation de placer sous surveillance un ex-conseiller de l'équipe de campagne de Donald Trump dans le cadre des investigations sur les ingérences russes lors de la présidentielle. De sorte, écrit à The Washington Post, que l'on assiste aujourd'hui à un conflit ouvert donc entre le président des États-Unis d'un côté et le FBI de l'autre, c'est-à-dire une agence de sa propre administration dirigée par un homme qu'il a lui-même nommé. Ce dernier, Christopher Wray, a pourtant tenté de convaincre Trump et son équipe de ne pas publier le fameux mémo, en vain. Mais alors, pourquoi le président est-il favorable à la publication de cette note hautement explosive? La réponse est sans doute à trouver dans une tribune signée par 3 dirigeants d'ONG américaines et publiée dans les colonnes de Politico repérées par le Courrier International. Selon eux, cette note serait une étape de plus dans une entreprise qui dure depuis 8 mois maintenant visant à discréditer l'enquête russe. Concrètement, Trump pourrait être tenté d'utiliser ce document pour limoger le ministre adjoint de la Justice, lequel a nommé le procureur spécial Mueller en charge de l'enquête russe. Or, si le président utilisait ses pouvoirs pour le remplacer par quelqu'un à sa botte, cette personne pourrait tout simplement étouffer l'enquête, s'alarment les contributeurs de Politico. Ainsi, la stratégie du camp Trump paraît très claire, la meilleure défense c'est l'attaque. Problème, le président risque du même coup de se rendre coupable d'obstruction à la justice. Alors malgré la détermination du camp républicain, les démocrates ont bien lancé une ultime tentative pour empêcher la publication de cette note. Cette semaine, précise à nouveau The Washington Post, le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants a été accusé par son collègue démocrate d'avoir apporté des changements substantiels à cette note avant de l'envoyer à la Maison-Blanche. En clair, le document aurait été modifié alors que sa diffusion avait déjà été approuvée par la commission, de quoi ajouter un peu plus encore à la controverse.
Enfin, à Cuba, là c'est le futur biopic du président Castro qui a connu un nouveau rebondissement.
Oui, le
Thomas.
Camarade Fidel Castro Díaz Balart s'est suicidé, titre ce matin le quotidien officiel Granma. Le fils aîné de l'ex-président, suivi par un groupe de médecins depuis plusieurs mois en raison d'un état profondément dépressif, précise de son côté le site Cuba Debate, a mis fin à ses jours hier matin à l'âge de 68 ans. Et selon la BBC Mundo, l'annonce de sa mort, 15 mois seulement après celle de son père, aurait littéralement assommé les Cubains. Il faut dire aussi que la presse officielle fournit rarement des informations détaillées sur les causes des décès, en particulier lorsqu'il s'agit de suicides. Connu sous le diminutif de Fidelito, rappelle pour sa part le magazine Newsweek, ce diplômé de l'Institut des sciences et de la technologie nucléaire de l'ex-Union soviétique n'avait jamais assumé de fonction politique. En revanche, et bien malgré lui, il avait participé lui aussi à la saga familiale née d'un premier mariage. Il s'était ainsi retrouvé au beau milieu d'une véritable bataille entre Fidel Castro et sa première femme pour savoir qui des deux obtiendrait la garde de l'enfant. Le fondateur de la Révolution l'avait finalement emporté.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.